Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
C'est l'histoire d'une mère qui découvre en 2019 que ils ont trois enfants avec son conjoint et le troisième enfant est un tout petit poupon là quelques mois, mais elle découvre que leurs deux enfants, un garçon et une fille, ont été agressés sexuellement par leur père, son mari. C'est une histoire épouvantable en deux parties. Donc, il y a ce choc-là. Et ensuite, le combat d'Isabelle pour dépouiller celui qui allait devenir son ex-conjoint de son autorité parentale. Parce que oui, aussi fou que ça puisse sembler, si un parent agresse sexuellement son enfant, plaide coupable, ben il n'est pas automatiquement déchu de son autorité parentale. Je suis heureux d'accueillir Isabelle en studio. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle, on s'est parlé pour cette chronique dans la presse et d'abord, je peut-être juste résumer les faits. On va pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont assez glauques, mais parle-moi de ce moment en 2019 où tu découvres l'innommable.
Dans le fond, je donnais la routine de bain aux enfants. C'était un soir où le père travaillait, donc j'étais seule à la maison avec les enfants. Je tenais mon plus jeune de 5 mois dans les bras et j'avais ma fille qui était dans la douche et celui du milieu qui était dans le bain. Je validais avec eux qu'ils se rappelaient bien comment bien se laver aux parties intimes. Et c'est à ce moment-là que ma fille m'a fait un gestuel de masturbation en me disant « c'est comme ça qu'on fait maman, comme on fait à papa ». Ma première réaction, je me suis dit « je sais même pas si j'ai bien entendu ». Je lui ai demandé « tu parles bien de papa ?» Papa de la maison. Puis elle me dit oui, papa de la maison. Les deux jeunes, mes deux plus vieux, commencent à décrire d'autres événements. À ce moment-là, j'étais vraiment sous le choc. Mon premier réflexe a été de vouloir téléphoner à mon aujourd'hui ex-mari pour le confronter. J'étais sûre à ce point-là que ma fille et mon garçon me disaient la vérité à 99%.
C'était trop précis.
Il y avait tellement de détails, mais c'est comme si j'avais besoin de confronter mon ex-mari. Donc, je lui lâche un coup de fil au travail. À ce moment-là, je lui ai dit qu'est-ce que ma fille vient de me dire. Et lui, il n'admet pas. Donc, il dit que c'est pas vrai, que ma fille ment. Donc à ce moment-là, je l'entends au téléphone avec comme s'il était essoufflé, comme s'il pleurait. Donc je lui demande si c'est pas vrai, pourquoi tu pleures alors? Puis il me répond, je pleure pas, je suis en train de déplacer des boîtes. Et à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai dit, je viens de te dire qu'est-ce que notre fille m'a dit. Puis tu ne t'arrêtes pas de travailler et tu continues de déplacer des portes. À ce moment-là, je me dis, c'est clair qu'il me ment. J'ai eu la réponse que je cherchais. Donc, je lui dis, on va en reparler plus tard. Je raccroche. Et à ce moment-là, je me retourne vers ma fille et je me dis, je vais lui demander une dernière question qui va vraiment là, venir me clore mon 100%, que j'étais certaine qu'elle me dise la vérité. Et à ce moment-là, je lui demande, je lui dis, ma chouette, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Au pénis à papa. Et c'est là qu'elle me décrit vraiment là, tu sais, physiquement, c'est quoi qui se passe. Donc, tu sais, l'érection, l'éjaculation. Puis je me dis, OK, non, c'est fini, c'est réglé dans ma tête. Je sais que c'est vrai à 100%. Donc, c'est à ce moment-là que j'arrive pour appeler ma sœur. À ce moment-là, ma fille a eu le temps de sortir de la douche. Ben, je venais de lui parler aussi. Puis là, elle me suit, puis elle me voit au téléphone et elle me dit « Maman, je veux pas que tu appelles la police parce que sinon papa va aller en prison. » Là, je me dis « OK, là, elle vient encore plus de me confirmer qu'il l'a manipulé. » Je parle à ma sœur, je lui dis je vais t'expliquer plus tard qu'est-ce qui s'est passé, mais est-ce que tu pourrais nous accueillir chez toi quelques jours? Puis elle me dit oui, je raccroche, je m'en viens. Je raccroche, je ramasse vraiment rapidement. À ce moment-là, c'était vraiment la peur qui revienne à la maison. Donc j'ai vraiment ramassé les choses le plus vite possible. J'ai dit aux enfants, venez, on s'en va chez Marianne, on va aller faire un sleepover pour les essayer d'apaiser un peu l'atmosphère. Et à ce moment-là, on quitte la maison. Je reçois un texto de mon ex-mari qui me dit « je m'en viens ». Moi, je continue mon plan. Je m'en vais chez ma soeur.
Vous pressez le pas, mais vous revenez à la maison, vous le confrontez.
Oui.
Là, vous avez une confirmation. Et Isabelle, la suite des choses, il est arrêté. Il plaide coupable. Il conteste pas les accusations. Et moi, ce que j'ai trouvé très fort chez vous, c'est qu'il y avait une clarté morale immédiate. Dès qu'il a confirmé ce soir-là, là, vous y avez dit, c'est fini, je demande le divorce. Il n'y a pas eu de niaisage, oui. Vous avez décidé de protéger vos enfants avant tout. Et je vous le dis, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, je sais pas si vous avez eu des doutes, mais félicitations. Mais là, il y a une deuxième partie. Il y a tout le tourment qu'on peut deviner, la peur que vous avez par rapport à vos enfants, les séquelles, qu'est-ce qui va se passer. Vous réalisez à un moment donné qu'il y a encore des droits comme père. Partout où vous vous retournez, on vous dit, oui, mais il a le droit d'avoir des nouvelles. Il va avoir le droit, même s'il plaide coupable, même s'il va en prison, de peut-être avoir son mot à dire sur les soins médicaux, sur vos choix de voyage, etc. Et là, vous vous dites, ça n'a pas de bon sens, il faut que je me batte contre ça.
Oui, c'est exactement ça. Moi, au tout début, c'est sûr, tout ça arrive. Qu'est-ce que je souhaite, c'est qu'ils disparaissent de notre vie. Par contre, je suis prise avec ce passé-là où il a été un bon papa avant de changer de côté, là, si on peut dire. Donc, je suis comme prise avec ça, que les enfants sont attachés à ça. Mais clairement, tu sais, c'est plus notre présent. Donc, dans le fond. Lui continue à demander des nouvelles. Les enfants, ils disent « je m'ennuie ». Puis moi, je suis là, puis je me dis « je comprends que les enfants s'ennuient de lui, clairement, parce que c'était leur père. J'ai le père qui demande des nouvelles, et moi, je suis là, et j'aimerais juste qu'il soit coupé de notre vie. » Mais quand j'exprime ça aux intervenants qui étaient là pour moi à ce moment-là, ben c'est là que je me fais dire « je comprends, madame, mais comment le système est fait, il a encore des droits sur vos enfants. »
Et ce qui est incroyable quand on y pense, c'est que Isabelle, c'est vous qui aviez le fardeau de la preuve d'initier la procédure pour le déchoir de son autorité parentale, de prouver en cours avec des arguments, des analyses de spécialistes que ce gars-là devrait pas avoir de présence dans la vie des personnes qu'il a agressées. Et ça a pris combien de temps avant que vous ayez justement le sceau d'approbation de la Cour?
Du moment que on a commencé à travailler sur le dossier avec mon avocate, ouais. Vous voulez dire. Ça a pris un bon... ça a commencé en mai et on a eu vraiment là, le jugement... à la mi-décembre de l'année suivante. Donc, je dirais à peu près un an et demi. Là.
Pendant ce temps-là, entre le début des procédures et la fin des procédures, votre ex a eu le temps d'entrer en prison, d'en sortir. Il a passé combien de temps en prison?
Il a passé à peu près 8 mois et demi.
Ça a pris plus de temps à voir la déchéance parentale que le temps qu'il a passé en prison.
Oui, exactement.
Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben tout d'abord, le temps qu'il a passé en prison, je trouve ça absolument ridicule. Moi, quand on m'a dit qu'il y avait une sentence de 3 ans, on m'a dit qu'il allait purger au moins le 2/3 de sa sentence avant de pouvoir être éligible à une libération conditionnelle. Donc, c'est sûr que quand j'ai su, après 8 mois, qu'il allait être éligible pour sa libération conditionnelle, j'ai trouvé ça complètement absurde. Mais bon, c'est ça, on passe à d'autres choses. C'est sûr que, de un, je regarde aussi la durée des abus. Il a abusé des enfants pendant... Puis là, c'est pas clair parce que les propos de ma fille étaient jeunes, tu sais. Mais on se dit c'est à peu près un an et demi. Il a fait moins de temps de prison que le temps qu'il a fait des abus à mes enfants. Et moi, pour les protéger, les démarches pour les protéger, ça l'a dépassé son temps de prison. Il y a juste plein d'incohérences là-dedans.
Il y a une réforme du droit de la famille qui est en cours à Québec présentement. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir comme changement pour ce qui est de l'autorité parentale, la déchéance de l'autorité parentale?
Moi, qu'est-ce que j'aimerais, ce serait que dès que... vraiment, j'y vais au plus idéal, là, serait que dès qu'un enfant parle et qu'il y a vraiment des doutes que qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai, que la déchéance parentale soit automatique envers le parent qui est à ce moment-là qui serait accusé. Dans mon cas, tu sais, je suis chanceuse parce qu'il y a plaidé coupable, mais je pourrais pas envisager s'il n'y avait pas plaidé coupable que je n'ai pas accès à cette déchéance parentale-là, étant donné que les détails que ma fille donnait, c'était trop évident que c'était la vérité.
Combien ça vous a coûté, Isabelle, pour les procédures civiles qui ont mené devant le tribunal à la déchéance de l'autorité parentale de votre ex?
Ça m'a coûté 13 500 $.
Ça ne devrait pas être à vous à payer ça.
Non, je suis bien d'accord. Puis, tu sais, c'est 13 500 $ mais sans compter les journées de travail aussi que j'ai manquées. Puis, tu sais, il y a plein de choses, mais pour avoir la déchéance parentale, il faut arriver là avec un dossier solide. Il faut s'assurer que, tu sais, moi, c'était la pression, il faut que mon enfant aille bien. Fait que toutes les thérapies, tout, fait que c'est beaucoup plus loin encore que les frais d'avocat. C'est vraiment de te monter un dossier, d'être vraiment assidu dans tout ce que tu fais pour ton enfant. T'as pas le droit à l'erreur parce que si t'arrives puis t'as manqué quelque chose, t'arrives devant le juge puis tu dis je suis là parce que je veux vous dire que je peux prendre soin de mon enfant toute seule puis que t'as fait une gaffe, ben ça joue pas en ton honneur. T'sais.
Quand vous avez découvert ça en 2019, les enfants avaient quel âge?
Ma fille, elle avait 6 ans. Mon garçon, il avait 3 ans et demi. Puis mon plus jeune avait 5 mois.
Comment vont les enfants maintenant?
Maintenant, les enfants, ils vont bien. Puis on me le dit souvent, là, puis ça, c'est un message vraiment général. S'il y en a qui savent que leurs enfants, ils vivent ça. Moi, je me suis fait dire le plus tôt que c'est pris en main, vraiment le plus de chances. Les enfants ont beaucoup plus de chances d'avoir des séquelles beaucoup moins sévères. Puis moi, je l'ai vu, là, tu sais, ça a été pris en main. Puis c'est pas juste une question de l'âge, mais c'est que dès que ma fille a parlé, il y a eu action. Donc, tu sais, ça aussi, ça l'a aidé, elle, à savoir qu'elle avait été crue. Mais ils vont bien. C'est sûr qu'on utilise beaucoup les ressources qui sont à nos mains.
Comme la Fondation Marie-Vincent, je pense qu'elle a été d'une belle aide, là.
Oui, absolument. Puis on a aussi là, puis tu sais, j'ai découvert qu'on n'a pas tant de ressources qui sont là pour les parents, mais pour les enfants, il y a aussi le SPIVAS qui est là. Ça, c'est pour plus à Laval. Oui.
Isabelle, vous êtes très forte, puis vos enfants sont très chanceux de vous avoir. Je vous remercie de nous voir en studio.
Merci.
Demain, on va parler à un député du Parti libéral là, qui va porter ce dossier-là, qui va essayer justement dans la réforme du droit de la famille de soulever la question un peu absurde qui est soulevée par Isabelle, celle de la déchéance de l'autorité parentale. Demain, on va parler au député André A. Morin. Merci Isabelle.
Merci.
Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
Présentement, à Québec, il y a un projet de loi, le projet de loi 12, qui est à l'étude. C'est une sorte de réforme du droit de la famille. André A. Morin est député libéral de l'Acadie, il est vice-président de la Commission de la santé et des services sociaux et porte-parole en matière de justice. Il est au bout du fil. Monsieur Morin, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
Bon, écoutez, vous avez entendu l'histoire d'Isabelle. Je l'ai racontée dans la presse. Je l'ai interviewée à cette antenne hier. Est-ce que, dans le projet de loi 12, il y a quelque chose à faire pour qu'il n'y ait plus d'autres combats de mères comme Isabelle dans le futur?
Bien, je vous dirais que dans le projet de loi 12, pour répondre directement à votre question, il n'y a pas le cas de figure de la situation qu'a vécue cette mère très courageuse, par ailleurs, qu'on appelle Isabelle. Ce qu'on retrouve dans le projet de loi 12, présentement, qui est une réforme de la filiation, qui traite aussi des conventions de grossesse avec les mères porteuses, et qui traite aussi des enfants qui sont nés d'une agression sexuelle, c'est une disposition qui parle beaucoup plus de la responsabilité financière qui vont viser les besoins d'un enfant issu d'une agression sexuelle. Vous vous rappellerez, dans l'émission, on a parlé d'un cas il y a quelques mois de cet enfant issu d'un viol. Et là, évidemment, la mère est obligée de se battre pour avoir de l'argent pour son enfant. Donc, le projet de loi 12 répond à ce cas de figure là, et ça dit en fait présentement que la mère, ça repose sur la mère, donc la victime de l'agression sexuelle pourra poursuivre l'agresseur pour obtenir éventuellement le paiement d'une indemnité, et que si l'agression sexuelle, par exemple, la mère l'a dénoncé, qu'il y a eu un procès criminel et que la personne a été condamnée, donc la disposition dit que l'agression sexuelle peut être prouvée par la production d'un jugement qui en reconnaît l'existence. Alors, spécifiquement, le projet de loi 12 répond à ce cas de figure-là. Il ne traite pas spécifiquement de la...
Okay. Mais
situation qu'Isabelle a vécu.
Je comprends, mais une fois que ça s'est dit, comme le projet de loi est à l'étude, le cas qui est rapporté par Isabelle, cette aberration, c'est-à-dire que des parents violeurs n'ont pas à prouver, disons, qu'ils sont encore capables d'être parents, c'est le contraire. C'est le parent victime qui doit dire, écoutez, le parent violeur devrait pas avoir d'autorité parentale. Ça, est-ce qu'il est trop tard pour l'insérer dans le projet de loi 12 puis corriger cette injustice?
En fait, c'est une excellente question. Il n'est pas trop tard. Le projet de loi 12 n'est pas encore adopté. On est présentement à l'étape en commission parlementaire où on entend plusieurs associations, groupes qui viennent nous parler de la convention pour grossesse, donc pour femmes porteuses, et évidemment de la responsabilité financière visant les besoins d'un enfant issu d'une agression sexuelle. Mais parce que la loi n'est pas adoptée, pour ça, il n'est pas trop tard de travailler là-dessus, puis éventuellement de proposer des modifications au gouvernement.
OK. Vous êtes un ancien procureur fédéral en chef, vous êtes un juriste. Pensez quoi de cette disposition du Code civil qui fait en sorte qu'il faut prouver qu'un parent agresseur, un parent violeur devrait être, s'il vous plaît, votre honneur, déchu de son autorité parentale? Est-ce que ça ne devrait pas être le contraire?
Oui, ben écoutez, la question que vous posez, elle est excellente. Puis effectivement, dans le cas de modification qui pourrait être apportée, il pourrait y avoir une présomption, par exemple, lorsqu'il y a eu une condamnation au niveau criminel, que ça emporte la déchéance de l'autorité parentale une fois que l'agression sexuelle, évidemment, a été reconnue, prouvée que l'agresseur a été condamné. C'est une chose qui peut être faite. D'ailleurs, votre question est très intéressante parce que présentement en France, il y a un projet de loi qui a été déposé en mars 2023, donc c'est hyper récent, et qui vise exactement le cas de figure que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il y aurait une disposition qui ferait en sorte que lorsque la personne est condamnée, le tribunal pourrait se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Donc, c'est une question, je vous dirais, qui habite les législateurs dans plusieurs juridictions présentement.
Très intéressant. Ben, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir, M. Lagacé.
À la prochaine. C'était André A. Morin, nouveau député pour le Parti libéral du Québec.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
308 pages, 1180 articles, c'est le poids de ce projet de loi qui en modifie 35 que vient de déposer le ministre de la Santé du Québec. Christian Dubé, c'est le plus grand effort de réforme du réseau depuis les années de Gaétan Barrette. Christian Dubé, ministre de la Santé, est au bout du fil. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur Lagacé.
Donc d'abord, écoutez, revenons à la base. Qu'est-ce que vous voulez corriger avec ce projet de loi?
Mais je veux corriger que les patients, premièrement, aient un meilleur accès au réseau de santé et être capable de ramener plus de personnel. Alors, deux choses très claires, là, deux raisons. C'est travailler pour que les patients soient mieux traités et pour être capable d'avoir plus de personnel.
OK. La portion la plus importante, celle, là, disons, là, sur laquelle vous céderez pas, c'est laquelle?
Ben écoutez, il y en a plusieurs. Je pense que si on veut accomplir ces deux objectifs-là, c'est sûr que le statu quo est pas possible. Je pense que tous les Québécois le reconnaissent. Là, on peut pas continuer comme ça. Ce que je pense, c'est que c'est un petit peu tout le monde. C'est difficile de vous dire laquelle en particulier, mais je pense que tout le monde va reconnaître qu'ils font partie de la solution. Puis ce que je veux dire, oui, on va parler beaucoup, par exemple, des médecins spécialistes ou des médecins. On va parler beaucoup, par exemple, quel genre de marge de manœuvre on peut donner pour qu'il y ait une meilleure prise en charge. Pour alors, il y a plusieurs éléments, mais je pense que je vous dirais, on en demande un petit peu à tout le monde. Et je pense qu'il faut être capable de dire, est-ce que ça peut être plus équilibré entre certaines professions? On l'a vu, par exemple, avec les omnis l'an dernier, quand on a eu des ententes avec eux, on était capable de prendre plus d'accès. Il y a 500 000 Québécois et plus qui ont eu un accès. Alors, je vous dis, si je prends chacune des professions, puis à qui on en demande de dire, est-ce que vous pourriez faire plus en ce moment dans des conditions difficiles, la réponse, c'est oui, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Alors, on en a plusieurs et c'est ça qu'on explique là, dans le projet de loi.
Santé Québec va devenir l'employeur unique, mais ça va aussi devenir, disons, une immense société d'État qui va gérer au jour le jour le système de santé. Vous dites vouloir décentraliser, mais il me semble que ça, c'est une forme assez patente de centralisation.
Ben, écoutez, au contraire, mais je comprends que c'est la réaction initiale de bien des personnes. J'essaie de vous l'expliquer très simplement. Il y a à peu près une dizaine de recommandations sur les 20 dernières années de tout le monde, de grands, de bons gestionnaires, d'experts, de ministres, peu importe, qui ont dit il faut séparer les opérations des orientations. Les orientations, c'est le ministère. Qu'est-ce qu'on fait en termes de santé publique? Qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention? Ça, c'est des orientations. Mais maintenant, gérer le réseau tous les jours, 350 000 personnes, le réseau, il est déjà très gros. Ce qu'on fait, en séparant les opérations, on amène une petite équipe de gestion qui vient, en fait, coordonner, puis je choisis mon mot, coordonner le travail des 35 PDG, des 6 et des 6. Donc, on rajoute pas du personnel de façon, sur 350 000, rajouter 8, 10, 12 personnes, c'est pas ça qu'on va faire le changement en termes de nombre, mais qui va faire un grand changement en termes de coordination. Et c'est ça que la création de Santé Québec permet de faire.
OK. Madame Julie Bouchard, la présidente de la FIC, là, le grand syndicat des infirmières notamment, déplorait le fait que les employés n'ont pas été consultés pour votre projet de loi. Avez-vous consulté les premiers intéressés qui sont les employés?
Oui, on a parlé beaucoup aux employés. Je peux vous dire que dans certains cas, les discussions, des fois, de certains syndicats sont plus difficiles. Mais je vous dirais qu'en ce moment, moi, je suis plus dans un climat de collaboration. Parce que je vous donne l'exemple de ce que les infirmières demandent depuis longtemps. Puis ça, va falloir le traiter avec le syndicat. C'est ce qu'on a appelé l'ancienneté de réseau. Puis l'ancienneté de réseau, maintenant qu'on a un employeur unique, il n'y aura plus de frontières pour un employé qui veut passer d'un 6 à l'autre, par exemple pour des raisons de déménagement ou changement dans la famille ou peu importe. Les gens nous disaient, moi je veux pas perdre mon ancienneté si je pars de la Rive-Sud et je m'en vais travailler au centre-ville ou vice-versa. Mais ça, là, ça fait des années que les employés demandent ça. Demandent ça à leur syndicat, demandent ça au Conseil du Trésor. Il n'y a jamais eu d'entente là-dessus. Oui, on a consulté les employés. Mais maintenant, c'est à tout le monde qui est alentour de la table de dire, ben, écoutez, si c'est ça que les employés veulent pour avoir un meilleur environnement, ça veut dire qu'une infirmière qui a 20 ans d'ancienneté, ben, qu'elle ne soit pas limitée dans les déplacements qu'elle veut faire. Ce n'est pas un déplacement obligé dont on parle, mais c'est un déplacement volontaire pour des raisons personnelles, ben, qu'on soit capable de lui donner cette possibilité-là.
L'ancienneté, c'est souvent le prisme dans les milieux syndiqués à travers lequel là, on distribue des quarts de travail, des nouveaux postes, etc.
Des vacances.
Les vacances, exactement. Je sais qu'en Ontario, les infirmières, quand elles choisissent leurs vacances, c'est pas uniquement en fonction du principe d'ancienneté, ce qui permet à des recrues, ou en tout cas à des infirmières qui n'ont pas beaucoup d'ancienneté, d'avoir des vacances en juillet plutôt qu'au mois de novembre. Est-ce que votre projet de loi va ramener une sorte d'équité dans la distribution de ce genre d'avantages chez les infirmières?
Bien, il y a deux choses qu'on fait en parallèle, M. Lagacé. On fait le projet de loi. Là, je vous ai dit que ça va enlever certaines barrières sur l'ancienneté parce qu'on va être capable de transférer sans perdre l'ancienneté. Mais il y a aussi ce que Mme Lebel, Sonia Lebel, notre présidente du Conseil du Trésor, fait. Il y a des négociations qui se font en parallèle pour une nouvelle convention. Moi, ce que je vous dis, c'est que la question que vous me posez se résout en partie par le projet de loi, mais aussi par les conventions collectives. Et c'est pour ça qu'on a déposé les deux en même temps, parce qu'on pense qu'on peut donner à nos employés, comme je vous ai dit tantôt, le plus rapidement possible le goût de rester avec nous et même de revenir si on leur donne ces conditions-là qui, au fil des années, ont été perdues.
Est-ce que votre projet de loi touche à la question des salaires différenciés, c'est-à-dire que pour certains types de postes où on a plus de demandes, par exemple, où on a des pénuries, eh bien, on veut donner plus d'argent à ces salariés-là, chose que les syndicats aiment pas trop généralement?
Bon, c'est une très bonne question. Le projet de loi, sur cet aspect-là, ne peut pas forcer le syndicat... Malgré que c'est ça que les employés demandent. Vous disiez tantôt, si on les a consultés, les offres différenciées, ça va venir par négociation des conventions collectives. Mais on était tellement clair avec Mme Lebel, qui fait un super boulot, que c'est ça qu'on veut avoir. Alors, une fois, par exemple, que j'ai une infirmière qui dit, moi, là, c'est ça que je veux, aller travailler en région, mais payez-moi en conséquence. Pas juste une petite prime qui compte pas dans mon fonds de pension, où je veux faire du 24 heures sur 7, je veux travailler aux urgences. Ben, alors, c'est la demande qu'on fait aux conventions collectives, mais après ça, on va avoir la possibilité d'envoyer cette personne-là, quand elle le veut, faire du temps en région ou faire des heures défavorables. C'est la combinaison des deux, et c'est pour ça qu'on a décidé de pas attendre la fin de la négociation pour dire voici la nouvelle agence qu'on met sur la place et je pense que ça commence déjà à parler qu'on pourrait même faire notre propre agence, c'est-à-dire être capable à l'intérieur de Santé Québec, au lieu d'utiliser des gens du privé, que ce soit des gens qui sont capables de se déplacer. C'est gros ce qu'on se dit là.
Dans le fond, ce que vous voulez, si je comprends bien, vous voulez créer une sorte d'agence privée, mais dans le public, qui va distribuer, là, selon les besoins, des ressources.
Exactement,
comme les infirmières.
Puis, parce qu'il y a des infirmières qui veulent travailler en région, il y a des infirmières qui, eux autres, sont prêts à les remplacer des soirs où on a des urgences au lieu de faire le fameux temps supplémentaire obligatoire. Mais ça, il faut que, entre autres, les syndicats soient prêts à accepter ces offres différenciées-là. Parce que c'est ça que les infirmières, ils veulent. Être capables d'être rémunérés en conséquence des sacrifices ou du moment où ils sont dans leur vie. À un moment donné, les jeunes familles qui ont des enfants, ben, ils se disent, non, ben, pour moi, je veux pas faire ces heures défavorables-là. Mais il y en a d'autres qui sont prêts à le faire sur une base volontaire, mais ils veulent être rémunérés en conséquence.
OK. Autre endroit où le projet de loi est accueilli froidement, là, c'est du côté de la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Vous avez utilisé, monsieur le ministre, l'image d'hôpitaux qui ont des engorgements. En partie parce que, dites-vous, il y a des médecins spécialistes qui ne travaillent pas après 16 heures. La FMSQ dit, ça, c'est pas vrai, cette affaire-là. Avez-vous des données qui appuient cette affirmation que vous avez faite?
Oui. Mais ça, c'est un élément. La réponse, oui, parce que je peux vous dire que ce soit 16 heures ou que ce soit 18 heures, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que de façon générale, puis ça, je vais le redire là, dans les prochaines semaines, la grande majorité des médecins puis des spécialistes, les omnis autant que je salue, ils travaillent très fort. Puis on le voit. Ce qui est des fois qui est un peu inéquitable, c'est que des gens qui sont, par exemple, associés à un hôpital ou associés à des corps de travail, qui pour X raisons ne sont pas là, ne peuvent pas être là, c'est là qu'il faut trouver une façon de répartir le travail équitablement. Regardez ce qu'on vit au Lakeshore en ce moment. Là, quand j'ai pas de spécialistes sur le plancher la nuit pour répondre à des urgences ou pour répondre à des demandes de consultation, qu'est-ce qui arrive au patient? Ben, le patient est obligé d'attendre des heures sur une civière que la consultation vienne. Alors moi, pour moi, le principe, c'est pas tellement l'heure. Est-ce que la disponibilité ou ce que moi j'appelle la responsabilité envers la population, elle est là? On a réussi avec les omnipraticiens, avec les médecins de famille, à avoir cette responsabilité populationnelle-là dans les dernières négociations. Ce qu'on veut, c'est avoir sensiblement la même chose avec les spécialistes, mais qui tient compte des différences dans leur profession. Je dirais que la plupart des spécialistes, ça ne fera pas de changement pour eux, mais ça peut faire le changement pour certaines spécialités.
Quelle spécialité?
Ben, c'est ça que je vais demander à M. Oliva, parce que j'ai toujours dit que je ne voulais pas faire de négociation dans le public. Dr. Oliva, qui est le président de la fédération, il dit, Dr. Oliva, regardez, on peut tout s'entendre sur le principe que c'est pas juste la responsabilité à l'hôpital que le spécialiste a, mais pour un territoire. Parce que le médecin spécialiste, des fois, il est en clinique, des fois, il est ailleurs. Alors, j'ai dit, dites-moi, selon vous, pour avoir un meilleur accès aux services, quand je parle des urgences, les chirurgies, le centre de rendez-vous des spécialistes, quand je regarde tout ça, dites-moi sur quelle spécialité on devrait mettre notre attention, puis on va le négocier ensemble. Mais le principe d'avoir une responsabilité populationnelle, j'ai été très clair, c'est ça qu'on demande dans le projet de loi.
1180 articles, 308 pages, vous allez être occupé dans les trois prochains mois parce que la session finit dans trois mois exactement.
Oui, mais en fait, là, je vais finir le projet de loi avec ce qu'on appelle la main-d'œuvre indépendante. Oui. On est en train de faire ça. Ça va très bien avec l'opposition. Fait que je vais juste dire aux Québécois, si j'ai la même collaboration sur le projet de loi sur l'efficacité qu'on a déposé aujourd'hui, que j'ai en ce moment avec les oppositions, les gens pourraient être surpris. Ce qu'il faut, on le fait pour les Québécois, puis je suis pas mal certain que l'opposition va vouloir qu'on avance assez rapidement là-dedans.
Vous allez être occupé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Dubé.
Merci à vous, M. Lagacé. Bonne fin de journée.
Vous aussi. Christian Dubé, ministre de la Santé.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Selon une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui a été publiée en janvier, ça avait, disons, frappé l'imaginaire. 94 % des rues du centre-ville de Montréal ont été partiellement ou totalement entravées à un moment ou à un autre entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Ben, la Ville de Montréal a présenté ce matin son plan de match pour réduire les entraves dans le cadre de ce qu'on appelle le sommet sur les chantiers. Je suis content d'accueillir en studio Luc Rabon et le maire d'arrondissement du plateau Mont-Royal est responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonjour, M. Rabouin.
Bonjour, Patrick.
Dites-moi, qui a dit encore des cônes oranges? Oui, mais chaque fois qu'on en installe un, on en retire un autre ailleurs.
Je le sais pas.
C'est Gérald Tremblay. Savez-vous quelle année?
2012.
Qui a dit... Les Montréalais en ont assez des chantiers qu'on ouvre, qu'on ferme et qu'on ouvre encore, et ça a un impact sur les automobilistes.
Ça pourrait être nous, ça.
Ça, c'est Valérie Plante, candidate à la mairie en 2017. Qu'est-ce qui me dit que votre sommet sur les chantiers, ça va être autre chose que du blabla comme ce que je viens de vous dire?
Ouais, bon, je pense qu'il y a beaucoup de sceptiques, puis avec raison, parce que ça fait des années, puis vous avez raison, parce que je me rappelle très bien de l'époque de Gérald Tremblay, toutes les caricatures qu'il y avait sur les cônes oranges. C'est pas un nouveau problème. Qu'est-ce qui fait que ça va changer à partir de maintenant? Ben, la première chose, c'est qu'on a mis des propositions concrètes sur la table, et l'autre élément qui est vraiment déterminant, aujourd'hui, là, il y avait une centaine de personnes à 9h ce matin qui viennent de différents milieux, du milieu de la construction, des entreprises qui ont ça comme job à faire, des développeurs immobiliers, des grands donneurs d'ordre comme Hydro-Québec, Énergie, Bel Canada, Vidéotron. Tout le monde était là et il y a un consensus de tous les acteurs qu'il faut que ça change. Donc ça, c'est quand même un élément déterminant parce que juste la ville tout seul, on peut bien faire des choses, mais on a besoin de tous les partenaires. Et à 3h30, à la fin de la journée, ils étaient encore tous là. Donc ça, c'est quand même. Les propositions qu'on a mises sur la table, concrètes, On en a mis ce matin, là.
OK, mais juste une seconde. Ouais. Vous comprenez mon scepticisme.
Non, ben
c'est le mot-clé. Je veux dire, on remonte à 2012, puis on peut remonter jusqu'à 2002, si vous voulez. Ouais. Il y en a eu des sommets, il y en a eu des conférences de presse avec des maires, des mairesses, des ministres des Transports. 2012, tout le monde était là. Il n'y a rien qui a changé. Ça se peut-tu que c'est un problème insoluble, les chantiers à Montréal?
C'est un problème difficile. Mais moi, je me résous jamais à dire c'est insoluble, parce que si c'est insoluble, ben, je m'en vais chez nous puis je fais d'autres choses, tu comprends? Donc, c'est un vrai problème. Il faut qu'on agisse. Est-ce qu'on va tout régler? Probablement pas, mais on peut très certainement améliorer les choses. Et c'est pour ça que nous, on mettait des propositions qu'on veut mettre en place rapidement, qui ne changent pas toutes, mais qui améliorent les choses. Et on en a qui sont majeurs. Puis là, il commence à avoir un consensus large sur les cônes oranges, le nombre, la taille. Dans un milieu urbain, il n'y a pas ça ailleurs dans le monde. Il y a ça juste ici. Là. Donc, ces règles-là qu'on fait sur des autoroutes, il faut que ça change dans une ville.
On va arriver aux mesures concrètes, là, mais je veux revenir sur le scepticisme. Je le dis, la mairesse Plante, je me souviens de sa campagne de 2017, l'homme de la situation, mais aussi un grand point de mécontentement des Montréalais sur lequel elle a capitalisé, c'est... Moi, les régler, moi, les problèmes autour des chantiers. Il y a eu deux élections depuis. On fait un sommet des chantiers 6 ans après la déclaration que je vous ai lue. Pourquoi je vous croirais? Pourquoi ça a pris 6 ans?
Ça n'a pas pris 6 ans parce qu'il y en a eu des choses qui ont été faites.
Ouais, clairement, ça n'a pas marché.
Clairement, ça n'a pas répondu à l'ensemble des attentes, mais ça a marché. L'escouade mobilité, il y a 16 personnes qui travaillent à temps plein. Ils ont retiré 3000 comptes, panneaux, etc.
Mais monsieur le maire, on a quand même besoin de faire un sommet sur les chantiers.
Exactement.
Le titre de ce sommet-là est un peu absurde.
Oui, mais c'est parce qu'il faut en faire plus, puis il faut avoir des mesures plus importantes et obligatoires.
OK. Comme quoi?
Comme quoi. Donc, on avait commencé à l'aborder, là, le nombre de cônes ou de panneaux de signalisation, de cônes oranges exigés dans un milieu dense comme Montréal, la taille, leur nombre, ça n'a pas de bon sens. T'sais, tout le monde qui voit des chantiers puis qui voit le nombre de cônes, ça n'a pas de bon sens. On comprend que les chantiers doivent être sécuritaires.
S'il y a moins de cônes, on va-tu mieux circuler? Parce que c'est le symptôme d'une place à protéger, un cône.
Oui, mais je veux dire, on en protège...
Peut-être trop large.
On en protège trop large, absolument, parce que la vitesse sur une autoroute, c'est pas la même que dans une ville. Puis, je veux dire, tout le monde qui a voyagé un peu en Europe, ils en font des chantiers, là, puis ils ont pas de cônes oranges. Pas qu'ils en ont moins, ils en ont pas. Donc, il faut qu'on trouve une façon de s'assurer que nos chantiers sont sécures, mais qu'on n'entrave pas nous-mêmes. Et l'autre élément sur les cônes, c'est que c'est pas juste les entraves à circulation, c'est qu'ils entraînent. Tu sais, qu'on voit des cônes.
C'est pas à ville,
non,
c'est aux entrepreneurs.
C'est aux entrepreneurs, exactement. C'est à eux à gérer leurs comptes, c'est ça, normalement.
C'est quoi le règlement sur la gestion des comptes?
Oui, il faut qu'ils ramassent leurs comptes, sinon ils peuvent avoir des amendes sur les comptes que nous, on ramasse à leur place.
Vous donnez combien d'amendes par année pour des comptes pas ramassés assez vite?
Sur les comptes spécifiques, je suis pas capable de vous répondre, mais on a donné quelques milliers d'amendes, l'escouade de mobilité, là. Hein? Donc, elle donne des amendes, elle ramasse des comptes, elle donne des amendes, on en fait déjà.
Pour un total de combien en amende?
En argent, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire le montant.
OK. Là, j'ai lu que les amendes allaient augmenter pour la gestion des chantiers, là, quand il y a des contraventions. Présentement, c'est quoi les types d'amendes puis pour quel type? Combien on donne par amende pour quel type d'infraction?
Ouais. C'est quelques centaines de dollars pour des amendes.
Donnez-moi un exemple concret, là.
Ben, je peux pas vous donner un exemple concret, mais c'est moins de 200$ quand on donne une amende pour une infraction qui a des comptes qui traînent.
Pour les comptes, par
pour
exemple.
Les comptes,
moins
par
de
exemple.
200. Moins de 200. Ça va monter à combien?
Je peux pas vous dire ça va monter à combien, mais ce qu'on a dit, c'est que on est allé tester l'idée. Il faut augmenter les amendes. Les gens, ils sont d'accord. Jusqu'à combien? C'est ça qu'il faut être capable de cibler. Mais nous, notre objectif, c'est qu'il faut que l'amende, elle soit dissuasive. Fait qu'il va falloir qu'elle soit assez élevée pour que ça vaille la peine.
Je suis étonné qu'on soit en train de parler de ça, puis je vous explique pourquoi. Ouais. Sur un chantier de plusieurs centaines, voire des millions de dollars, si l'amende pour mal gérer les comptes puis se contre-sacrer du fait que ça va être une entrave pour tout le monde alors que c'est plus nécessaire, si c'est quelques centaines de piastres, pas besoin de vous donner la métaphore de la goutte d'eau dans l'océan. L'entrepreneur s'en fout complètement. C'est le prix de faire des affaires. Comment ça se fait que c'est pas déjà des milliers de dollars?
Exact. Donc, c'est pas... Non, mais tout à fait. Pour que ça soit dissuasif, faut que
On a-tu besoin d'un sommet pour ça?
Oui, mais le sommet, c'est parce que c'est pas action par action. C'est un ensemble d'actions qu'on a proposées. L'autre élément qu'on a dit, qui est vraiment important, c'est le délai de l'installation de la signalisation. Hein? Des fois, la signalisation est installée, puis là, ça fait 4-5 jours, une semaine, il n'y a pas de travaux. Fait que là, tout le monde...
On fait un goulot d'étranglement pour rien.
Exactement. Puis, je veux dire, on enlève la place de stationnement. Je veux dire, les citoyens, finalement, ils voient que le panneau sert à rien. Fait qu'ils se mettent à surstationner. Tu sais, je veux dire, ça marche pas. Donc là, ça, puis chantier fini, les panneaux, les comptes traînent sur les trottoirs, les panneaux traînent, etc. Donc là, on a dit 12 heures. Ta signalisation, tu le mets 12 heures avant, puis 12 heures après, il faut que tu sois sorti.
Là, le règlement est passé?
Non. On a mis ça au jeu. Ça fait-tu du sens? Les gens nous ont dit, 12 heures, c'est un peu serré parce que, tu sais, il y a la nuit, les gens vont-tu le voir, etc. Ils nous ont dit, 24, c'est jouable. On a dit, parfait. Ça va être 24, mais 24 appliqué. Donc, nous, on va l'appliquer.
Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui, justement, ont des chantiers, protègent des chantiers, qui sont assis au fameux sommet des chantiers?
Exact. C'est ça qui est important de comprendre. Eux, ils étaient là. Donc, l'Association québécoise des entreprises en infrastructure, par exemple, qui était là, qui nous disait, il faut qu'on se parle davantage, puis qui saluait le fait qu'on est dans un mode de collaboration avec eux. Donc, on teste des idées, et eux, ils en ont aussi. Donc, c'est ça, je pense, qui change. C'est qu'on change d'air. Plutôt que la ville, on pense nos affaires, eux, ils s'obstinent. Non, non, on travaille ensemble parce qu'eux autres aussi, ils veulent que leur chantier soit mieux perçu par le public, parce que à la fin, ils veulent être fiers des projets qu'ils font.
OK, M. Rabouin, le marqueur du succès, ça va être quoi dans un an? Disons, là. T'sais, aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, là, mais après ça, on va évaluer ça comment que ça s'est amélioré.
Ben, dans la perception du public, ça va être amélioré.
Ouais, ça, c'est dur à mesurer. C'est assez vague, là.
Je comprends. Mais on va être capable d'appliquer. Moi, je suis aussi maire du plateau, là.
Ouais.
Fait que j'envoie des comptes oranges puis des panneaux.
Mais le marqueur, on va en avoir moins. Indépendant du succès de l'opération, du sommet des chantiers, ça va être quoi?
Ça va être la mise en place d'actions concrètes.
Mais ça, c'est pas un marqueur de succès, ça, la mise en place.
Il y a des actions concrètes.
C'est une façon de vérifier. Mais regardez, je vais vous donner un paramètre, OK? Mais le paramètre de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui a fait une étude puis qui a découvert que entre deux dates, là, en 2021-2022, 94% des rues du centre-ville de Montréal avaient été partiellement ou totalement entravées. Ça, c'en est un marqueur. Ouais. Vous, ça va être quoi votre marqueur de succès?
En fait, qui ont été entravés, mais leur autre marqueur, c'est que le nombre de panneaux et d'outils de signalisation inutiles. Pour moi, tu sais, dans le fond, il y avait une question ce matin là qui était, y a-tu trop de chantiers à Montréal? Y a pas trop de chantiers. On a besoin de construire des unités d'habitation, on a besoin de faire des projets, on a besoin de rénover nos infrastructures.
Mais il peut y avoir trop de chantiers fantômes ou trop de chantiers trop mal protégés.
Exactement. Donc, c'est vraiment ça pour moi le marqueur, si on veut aller sur cet indicateur-là. La Chambre en a eu un, lui, sur les panneaux et les outils inutiles. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Il faut enlever ce qui est inutile et réduire le nombre de chantiers fantômes. Un des éléments qu'on se donne comme pouvoir, là, c'est t'as un permis pour faire des travaux. T'es pas là, on t'avertit une deuxième fois, on t'enlève ton permis. Donc ça, c'est vraiment important sur les chantiers que les gens disent, fermé, ils ont ouvert le chantier, puis ça fait deux semaines, on les a pas vus.
Vous allez
ils
enlever...
peuvent pas faire ça.
Mais quand on parle de chantier, là, vous parlez aussi des gens qui font de la réfection des routes?
Tous les chantiers.
Dans un contexte où vous avez des fois de la misère à avoir du monde pour faire les travaux, vous allez enlever ces permis-là?
Dans les contextes où on a des soumissions, on a des promoteurs qui déposent. Hein?
Oui, je sais.
Il y a un gros marché à Montréal.
Mais ce que j'entends, c'est que des fois, vous prenez les entrepreneurs quand sont prêts, même si ça fait des congestions sur des routes, disons, adjacentes.
Moi, je pense qu'il y a un grand bout où ils veulent savoir à quoi s'attendre. Puis un des éléments, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour la cellule facilitatrice.
Oui, la fameuse cellule facilitatrice immobilière.
Juste revenir, parce que c'était intéressant, parce que sur le panel d'ouverture, il y avait un développeur immobilier qui disait, moi, je veux bien être capable de vous dire d'avance quand est-ce que je vais faire mes travaux, mais il faut que je sache quand est-ce que je vais avoir mon permis.
Ouais.
Donc, tu sais, le travail qu'on fait en même temps sur l'accompagnement des projets va nous aider à mieux planifier. Et l'outil qu'on a mis en place, là, actuellement, on a une plateforme unique où on rentre tous les travaux des grands joueurs comme Hydro-Québec, etc., et la ville. Bien là, on va être capable de rentrer les projets dedans. On ne l'avait pas l'outil avant. C'est la ville de Montréal. On ne l'avait pas. Là, on l'a. On va être capable d'avoir tous les chantiers.
Vous n'avez pas l'outil, mais vous avez fait la promesse, par contre.
On a fait la promesse, puis on a fait des choses. On a fait la squad de mobilité. On a fait la charte des chantiers. On a fait beaucoup de sensibilisation. Là, ce qui change, là, c'est qu'on va faire des règlements, puis on va les appliquer.
Ben, écoutez, j'espère qu'en 2033, je ne vais pas vous réinterviewer sur le même sujet. Merci d'être venu nous voir.
Merci à toi.
Luc Rabouin, du comité exécutif de la ville de Montréal.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.